Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Babel Pongo Massimango.
Une, ces inquiétudes des chefs d'établissement scolaire du sud d'Oubero, Nord Kivu, c'est suite aux nouvelles exigences de la FCM23 qui veut désormais encadrer la gestion administrative et financière des écoles dans la partie sous son contrôle. Impression des bulletins à Goma, centralisation des frais scolaires avec 2% pour la rébellion. Voilà quelques-unes des mesures. La lutte contre Ebola doit se faire sans pour autant négliger les autres services essentiels de santé, notamment ceux destinés aux enfants et aux femmes enceintes. C'est ce qui ressort de la rencontre hier entre le gouverneur de l'Ituri et le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du centre à Bunia. Dialogue entre Congolais s'est penché hier sur les échanges entre le président burundais et président en exercice de l'Union africaine lundi à Bujumbura avec une délégation congolaise composée de l'opposition et des confessions religieuses. Dans ce journal, la lecture des invités. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu, où la coalition AFC-123 poursuit la mise en place de ces structures dans les zones qu'elle contrôle. Selon des responsables d'établissements scolaires, le mouvement rebelle veut désormais encadrer la gestion administrative et financière des écoles situées dans la zone sous son contrôle dans le sud du territoire de Lubero, une annonce qui suscite des inquiétudes. DDT avec Martial Papimukeba.
Réunis lundi dans la commune rurale de Kirumba, dans les territoires de Lubero, des chefs d'établissement scolaire affirment avoir réussi des nouvelles instructions de l'AFC-M23 pour la prochaine année scolaire. Selon nos sources, les bulletins des écoles situées dans les zones sous contrôle de l'AFC-M23 devraient désormais être imprimés à Goma, siège de la rébellion. Les frais scolaires seraient également centralisés par son administration. Les responsables d'école indiquent qu'une nouvelle clé des répartitions des recettes scolaires l'air a été présenté, 70% pour la prime des enseignants, 20% pour les gestionnaires des écoles, 8% pour le fonctionnement et 2% pour l'AFC-M23. Selon plusieurs sources, ces mécanismes seraient déjà appliqués dans certaines écoles des Gouma. Sous couvert d'anonymat, des chefs d'établissement expriment leurs inquiétudes face à une possible hausse des charges pour les parents et à une fragmentation du système éducatif national. Ils s'interrogent également sur l'avenir de la gratuité de l'enseignement primaire public décrété par les gouvernements congolais. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nous sommes dans les territoires de Lubero, Nord Kivu. Plus de 5000 élèves du groupement de Mouigné ont perdu leur année scolaire à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire. D'après le conseil local de la jeunesse, plus de 20 établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes ou de se délocaliser depuis le mois de janvier. C'est en raison des incursions répétées des combattants ADF dans la zone. Et face à cette situation préoccupante, les jeunes de la région exhortent les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes afin de rétablir la sécurité avant la prochaine rentrée scolaire. C'est ce qu'on nous dit ici, Prince Cassiano, président du conseil local de la jeunesse de Mouigné. Il est au téléphone de Marc Marofimbo.
Depuis le mois de janvier 2026, les sécurités persistantes et l'inquisition répétée des présumés ADF Nalu ont conduit à la fermeture de plus de 20 écoles du groupement Mouigné dans la sous-division d'Nziapanda. Cette situation prive aujourd'hui plus de 5000 élèves de leurs droits fondamentaux à l'éducation et compromet sérieusement l'avenir de ses enfants. L'année scolaire 2025-2026 est pratiquement perdue pour ses enfants. Cette crise touche également les enseignants, les parents et l'ensemble de la communauté. Face à cette réalité, nous lançons un appel au gouvernement, aux autorités provinciales et à tous les services compétents afin que les mesures efficaces soient prises pour rétablir durablement la sécurité dans les groupements Mouigné. Nous invitons les partenaires techniques, les organisations humanitaires à soutenir les efforts visant à garantir les droits à l'éducation des enfants de notre région.
Dans le conseil local de la jeunesse estime que le retour de la sécurité reste la condition essentielle à la couverture des écoles dans le groupement de Mouigné. À Béni, l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et des agriculteurs riverains du parc national de Virunga veulent apaiser leurs relations. Réunis sur place mardi, les deux parties ont échangé sur les différends liés aux limites du parc, à la législation sur la conservation de la nature et aux mécanismes de dialogue. Pour l'ICCN, toutes les questions en suspens peuvent être résolues par des échanges directs. Bienvenue au Mwende, chargé de communication de l'ICCN, le dit ici au micro de Marc.
La volonté affichée par les agriculteurs, elle est celle de créer un cadre d'échange sans intermédiaire entre eux et l'ICCN, puisqu'on sent qu'ils ont compris de leur côté que la plupart des tensions qu'il y a entre nous sont généralement entretenues par les intermédiaires. Et donc ça c'est une première étape, celle de pouvoir discuter directement entre les personnes concernées afin justement de pouvoir clairement identifier quels sont les points de tension qui nous opposent et regarder dans quelle mesure on peut aller vers des solutions apaisées. Toutes les questions qui nous opposent peuvent être traitées à bâton rompu, mais nous avons également suggéré que les agriculteurs se familiarisent et toute la législation autour de la conservation de la nature, notamment la loi 14, l'énoncé des limites du parc national de Virunga. Nous avons senti aussi que de leur côté, la question de la clarification des limites soit épuisée. Et à ce niveau, nous avons rassuré que la démarche avait déjà été entamée à travers la commission mise en place par les gouvernements de province, mais nous sommes sur une bonne lancée.
Les participants recommandent d'élargir ce dialogue aux autres communautés riveraines afin de consolider une cohabitation apaisée autour du parc national des Virunga. Nous sommes en Ituri à présent. L'Association pour la protection et la défense des enfants et des femmes vulnérables, APDF, tire la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Biakato. C'est à 75 km au sud du territoire de Mambasa. Dans une déclaration faite hier mercredi à Mambasa Centre, cette organisation dénonce la présence de groupes d'hommes armés parmi lesquels figureraient des rebelles ADF aux environs du centre de négoce de Biakato. Marcel Kizabiamungu pour les détails.
Selon l'APDF, ces éléments armés empêchent les agriculteurs d'accéder à leurs champs et entretiennent un climat de peur dans plusieurs localités. L'organisation rapporte qu'un agriculteur a été pris en otage puis tué mardi dernier à Makangalo, village situé à environ 7 km de Biakato centre. Sa moto aurait également été emportée par les assaillants. Les coordonnateurs de APDF, Rams Malkidogo, affirment que la population vit désormais dans la psychose, tandis que de nombreux cultivateurs renoncent à se rendre dans leurs exploitations par crainte d'être attaqués. L'organisation appelle les autorités militaires à renforcer les patrouilles dans les zones forestières afin de traquer et neutraliser ces groupes armés. De son côté, l'administrateur du territoire promet de se prononcer sur la situation dans les prochaines heures. Entre-temps, plusieurs habitants quittent progressivement les villages environnants pour se réfugier à Biakato centre qu'ils considèrent plus sécurisé. Bounia. Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, le tribunal de paix de Walikale a condamné mardi Lucien Amani Bitara, porte-parole de Moto Taximan du territoire, à 3 ans de servitude pénale pour incitation de la population à la révolte contre les autorités territoriales. Le jugement a été prononcé lors d'une audience publique organisée par le parquet près de cette juridiction. Outre cette peine d'emprisonnement, le condamné doit également payer une amende de 1,5 million de francs congolais. Bernard Denengui nous en dit plus.
La corporation des mototaximens de Walikale rejette cette décision de justice. Un de ses membres estime que leurs représentants font l'objet de poursuites injustifiées et dénonce sa détention préventive de près de 3 mois à la prison centrale de Walikale avant le prononcé du verdict.
Dans notre région sous état de siège, il est difficile d'obtenir justice. Pour nous, Lucien n'a commis aucune faute pouvant justifier une telle condamnation. Il ne faisait que sensibiliser les motards au respect des règles. Cette décision nous laisse profondément perplexes.
Amani Bitar Lucien avait été arrêté le 15 avril dernier par la police sur instruction des autorités territoriales. C'était à la suite d'une réunion des taximens moto desservant les axes Walikale-Goma et Walikale-Bukavu. Selon le comité des motards, il avait notamment dénoncé la multiplicité des barrières illégales érigées par certains éléments des forces de l'ordre et des groupes allendes sur ces routes, où les conducteurs seraient régulièrement victimes des tracasseries et des perceptions illicites. Son avocat, Maître Patient Ubuni, a annoncé son intention d'interjeter appel contre cette décision.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri ne va pas se faire au détriment d'autres services essentiels de santé, notamment ceux destinés aux enfants et aux femmes enceintes. C'est l'un des principaux messages de la rencontre entre le gouverneur militaire de la province et le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en mission depuis mardi à Bounia. Des échanges ont également porté sur la préparation de la prochaine rentrée scolaire dans une province où des milliers d'enfants restent privés d'éducation à cause des conflits armés. Isaac Raymond.
Alors que les efforts se poursuivent pour contenir l'épidémie d'Ebola en Ituri, les autorités provinciales et leurs partenaires rappellent que les autres services de santé ne doivent pas être négligés. Pour le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il est essentiel de maintenir les services de santé primaires, notamment la vaccination des enfants, le suivi des femmes enceintes, ainsi que les soins de routine malgré l'urgence sanitaire. Gilles Fagninou.
Aujourd'hui, on a l'impression que nous nous concentrons beaucoup sur Ebola et on oublie un tout petit peu les autres domaines dans lesquels des progrès avaient été enregistrés. Et si on continue comme ça, nous risquons de reculer sur d'autres fronts.
Au cours de cette rencontre, la question de l'éducation a également occupé une place importante. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration afin de favoriser la scolarisation des enfants en Ituri, où de nombreux élèves restent privés d'école à raison de l'insécurité et des déplacements des populations. Gilles Fagninou.
On a vu un intérêt très grand pour tout ce qui concerne les enfants. Et rendez-vous a même été pris en août où nous allons revenir pour échanger en détail de comment est-ce que nous priorisons les enfants, le travail des enfants, la protection des enfants, la participation des enfants.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
À propos d'Ebola, notez que des avancées importantes sont enregistrées dans la lutte contre cette épidémie. Plus de 250 patients ont déjà été guéris, parmi lesquels plusieurs enfants pris en charge au centre de traitement d'Ebola de Niakoundé et au centre de traitement de Bounia. Un constat dressé hier mercredi par le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite dans ses structures sanitaires. Malgré ces résultats encourageants, il estime que les efforts doivent être intensifiés face à la propagation rapide de l'épidémie et aux besoins croissants de la riposte. Gilles Faninou, au micro d'Isaac Raymond.
Dans la coordination de la réponse, de la riposte à l'épidémie Ebola, nous avons ensemble partagé un certain nombre de succès que le gouvernement enregistre dans la riposte. Mais le succès, c'est un peu ce que j'ai vu aujourd'hui ce matin à la crèche, où j'ai vu un bébé de 3 mois qui a été guéri et avec beaucoup de sourires. Nous avons vu aussi un enfant de 9 mois qui a guéri et qui est en train d'évoluer, qui est en train de jouer. Et donc, ces petits succès qu'on rencontre ci et là, il faut qu'on puisse les célébrer. En même temps qu'on a les difficultés, c'est toujours encourageant de reconnaître les succès qu'on enregistre. Et il y a beaucoup, il y a plus de 250 cas de guérison qui sont là aujourd'hui et qui font la fierté. Évidemment, il faut bâtir là-dessus parce qu'on a l'impression que l'épidémie progresse un peu plus vite que la riposte qui est orchestrée. On en est conscient et les discussions sont en cours pour que l'accélération continue.
Parlons de ces naufrages à répétition sur la rivière Oulindi, qui ont été autant de Chabunda au sud Kivu. Au moins 50 personnes sont mortes et d'autres ont disparu ces 3 derniers mois. Selon les forces vives locales, cette situation est la conséquence du mauvais état des embarcations utilisées pour assurer le transport des personnes entre différents villages situés le long de ces cours d'eau. Cette information est confirmée par Shadrach Muganza, élu provincial du territoire de Chabunda. Celui-ci cite le cas le plus récent survenu le 2 juillet, où au moins 23 personnes ont péri, tandis que des minerais et marchandises ont été perdus dans la rivière Oulindi. Selon l'élu provincial, déplore que malgré les innombrables naufrages enregistrés sur cet affluent du fleuve Congo, aucun contrôle ni enquête n'a été diligenté. Shadrach Muganza est joint par Ronelly Tibonera.
Après ces naufrages, on constate qu'il n'y a pas de manifeste. L'embarquement n'est pas aussi coordonné. Face à cette réalité, je recommande l'ouverture d'une série d'enquêtes sur tous les naufrages des gens enregistrés dans le territoire de Chabunda. Et puis je demande également l'identification de l'ensemble des beaches et des embarcations opérant sur les principales rivières concernées par les pirogues motorisées et non motorisées. Je plaide en outre pour l'établissement des statistiques détaillées des victimes depuis les années 2025 et 2026, sans oublier d'interpeller les chefs de ressort et les détenteurs, les utilisateurs, les opérateurs de ces règles non motorisées pour bien justifié des documents qui les ont autorisés la navigation dans ces trois rivières.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump s'en est pris hier aux alliés de l'OTAN lors d'un sommet à Ankara alors que les répercussions de sa guerre contre l'Iran menaçaient d'éclipser cette réunion cruciale. Africa News rapporte que, alors que les tensions s'intensifient après une nouvelle escalade entre les forces américaines et iraniennes, Donald Trump a affirmé que le cessez-le-feu avec Téhéran était terminé. Il a également reproché aux membres européens de l'Alliance de ne pas avoir soutenu sa campagne contre l'Iran, qui considère comme le principal État soutenant le terrorisme.
L'invité.
Le président burundais, président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye, a échangé lundi à Bujumbura avec une délégation en provenance de la RDC. Cette délégation était composée de responsables des partis politiques d'opposition, ainsi que des leaders des principales confessions religieuses de ce pays, de la RDC, au menu des consultations sur les tensions politiques, sécuritaires et institutionnelles ici au pays. Le chef d'État burundais a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges menés dans un esprit d'ouverture et de confiance. Il insiste sur l'importance d'un dialogue constructif et sur l'unité. Écoutons ce qu'en pensent les invités de dialogue entre Congolais d'hier. Ils sont au micro de Dona Madimba.
Alidor Chibanda, nous sommes justement dans les conclusions de cette émission. Selon vous, vous pensez que pour résoudre justement ce problème récurrent de contestation en RDC, de manque de continuité dans la paix, dans la gouvernance et dans la gestion de l'État, selon vous, quelle pourrait être la solution?
Pour le moment, on encourage qu'on aille d'abord au dialogue. L'urgence, c'est la paix. Et après, on se posera la question du pain et de la stabilité.
Même si on a déjà eu plusieurs dialogues donc, qui n'ont pas résolu...
Elle vaut la peine parce qu'elle va nous permettre d'avoir une accalmie. Dans un premier temps, pour se poser des questions sérieuses, il faudrait qu'on soit en paix. Qu'on soit en paix et que les gens se retrouvent dans un... Après que les armes aient cessé de crépiter, on pourrait se poser des véritables questions et discuter
sur peut-être les vraies les causes d'âme, profondes.
Sans état d'âme, sur des causes profondes. Parce que quand on le dit, par moment, quand vous essayez de fouiller, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le deal qui constitue des causes profondes? Si c'est le deal, en quoi le deal engage le Congolais? Pour le moment,
dialoguons et trouvons des solutions.
Trouvons d'abord la paix. Et puis...
Merci à vous, Alidor Chibanda. Frédéric Amani, aussi un peu en guise de conclusion pour vous. Quelles sont, selon vous, les fameuses causes profondes qui reviennent à chaque cycle et quelle pourrait être la vraie solution à la résolution de toute cette incertitude congolaise?
Il faut dire d'abord que l'homme congolais semble n'avoir pas appris de l'histoire, malheureusement. Je crois que c'est ce qui nous ramène à ce cycle infernal, n'est-ce pas, des retournements de situation. Dédé, je pense que le dialogue étant une vertu dans toute société moderne, eh bien, dialoguons et posons des questions profondes, pour reprendre l'expression, afin de regarder dans la même direction et d'évoluer. Et de trois, je pense que il faut, dans toute action politique ou dans toute action d'un homme d'État, il faut privilégier l'intérêt général et cela va permettre à ce que les intérêts égoïstes ne puissent pas primer sur l'intérêt général. Lorsque vous regardez les précipitations, les déclarations des uns contre les autres, les agitations, on a tendance à croire que beaucoup plus c'est cramponne sur les intérêts égoïstes que l'intérêt général. Malheureusement, certains disent parler pour le peuple et au nom du peuple, mais en réalité, lorsque vous lisez ou lorsque vous scrutez leurs actions, le peuple est en dernier ressort, malheureusement.
Merci à vous, cher Frédéric Amani. Christian Moleka, est-ce que, en ayant vécu plusieurs dialogues inclusifs, et qui nous ont pris le temps que ça nous a pris, et qu'on en soit aujourd'hui arrivé à réclamer un énième dialogue, est-ce que ce n'est pas la reconnaissance que cet outil a échoué? Faut-il encore l'utiliser aujourd'hui, même s'il faut, comme Alidor Chibanda a dit, essayer d'abord de faire baisser les tensions actuelles? Et selon vous, Après toutes ces réflexions, après le constat de la situation d'aujourd'hui, la vraie solution pourrait être quoi?
Je pense que le problème, c'est pas l'outil. Aman, il a évoqué avant moi, en me prenant presque les mots dans la bouche. L'histoire est bégaiement. Lorsque vous répétez les mêmes erreurs, vous devez vous demander pourquoi je répète les mêmes erreurs. Le problème, c'est pas l'erreur. Le problème, c'est vous qui n'êtes pas lucide. Et donc, notre défi à nous, c'est que nous répétons l'histoire. Nous répétons l'histoire parce que nous ne tirons pas les leçons des crises antérieures, que ce soit les crises en 60. Si vous prenez notre constitution, prenez les préambules. Les préambules de la constitution rappellent les origines des crises. L'exclusion politique, la confiscation du pouvoir, les divisions, le tribalisme. Ces réponses sont dans la constitution. Il ne faut pas aller les chercher loin dans les préambules. Il faut le lire. Et donc, nous les connaissons, ces problèmes depuis 60, mais nous les répétons. Et tant que nous continuons à répéter les mêmes erreurs qui sont reproduites dans le préambule de notre constitution, eh bien, nous référons les mêmes chemins de dialogue. Parce que le dialogue, c'est pas le point de départ, c'est le point d'aboutissement. Et nous aboutissons à ce même point parce que nous prenons le même chemin.
Et je vous rappelle que vous pouvez continuer de suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci à vous qui avez suivi ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Jean-Claude Siala. Passez une excellente journée.